Francesca.
Vous êtes parti d'Arezzo, vous avez pris une route de campagne au milieu des vignes et des oliviers. Vous êtes arrivé à Borgo San Sepolcro, puis à Monterchi, qui est un petit bourg à la limite de la Toscane et de l'Ombrie, là où le paysage italien devient tout à coup moins riant. Vous avez fait deux autres kilomètres sur un chemin encore plus étroit, bordé d'ifs et de cyprès, désert. Vous êtes arrivé jusqu'au cimetière. Au bout du cimetière, jusqu'à la chapelle. Et là, miracle. De l'autre côté du portail, dans ce lieu reculé, obscur, vous avez été saisi par la splendeur de cette fresque.
Une vie, une œuvre.
Ah, pourquoi je suis médusé par le regard de ces tableaux? Parce que je trouve, d'abord je trouve qu'il y a une beauté absolue dans ces tableaux. Et puis j'aime bien ce regard détaché de l'humanité, ce regard un peu lointain. Comment je veux dire, c'est une humanité un peu absente d'elle-même, et ça j'adore.
Le manteau bleu de la Vierge s'entr'ouvre en une fente étroite, verticale, sur la ligne, impossible à situer mais de tout temps franchie, qui sépare le corps du désir du corps de l'enfantement. Deux anges semblables et charnels écartent les tentures de part et d'autre pour qu'à plein regard nous la voyions. Elle, une main sur la hanche, l'autre effleurant l'intime ou le désignant, vertigineuse et placide.
Une vie, une œuvre, Piero della Francesca, vers 1413-1492. Par Simone Dweck, réalisation Dominique Costa.
C'est une œuvre sur laquelle que j'ai beaucoup regardé, à laquelle je pense constamment, mais de laquelle je n'ai jamais parlé. J'ai pris soin de me tenir à distance. C'est une des œuvres les plus extraordinaires, les plus sacrées, qui vous laisse. Et on peut d'ailleurs peut-être essayer de dire pourquoi elle vous laisse sans mots. Enfin, c'est extrêmement difficile de parler d'art, mais alors de parler d'un tel objet, c'est l'objet peut-être le plus rétif au langage. Ce qui peut d'ailleurs expliquer, d'une certaine façon, le long sommeil de Piero, enfin, le long sommeil avec lequel cette œuvre a été tenue.
Dialogue. Dans quel tableau aimeriez-vous disparaître? Demande Jean-Paul Marcheschi. Disparaître, oui, reprend Alain Buzyne. Y disparaître, pour voir comment voit le peintre.
Moi, je la lis comme un homme du 15e m'envoie un message. Je trouve assez beau qu'un type du 15e m'envoie un message. Au-delà des siècles et au-delà de la religion, si je puis dire.
Dans quel tableau aimeriez-vous disparaître? Note lue dans les écrits du peintre Jean-Paul Marcheschi. Je m'étonne, de tels mots semblent écrits pour l'œuvre de Piero della Francesca. À fixer ses lumières pâles, le regard s'hypnotise, comme s'il voulait s'incorporer aux fresques et aux panneaux peints, aux formes diaphanes, dont la présence occupe l'espace. Car, aucun doute sur ces transparences, elles ne sont pas des absences. Piero della Francesca, peintre du Quattrocento, nous parle à nous, du lointain et à la fois du terrestre. La Madone bleue, à la robe entrouverte sur la maternité, qui désigne de son doigt le sujet même du nom qui lui a été donné, Madonna del Parto, de l'accouchement. Les Vierges de l'Annonciation qui, le temps de la visite de l'ange, glissent l'index dans le livre pour en retenir la page. Geste pareil. Il nous inclut dans la peinture et aussi nous questionne. Comme ces beautés semblables des figures, des scènes paisibles aux batailles, des retables aux portraits, de la vie du Christ à celle des saints. Les visages lisses, statues antiques, aux yeux larges et aux lèvres pleines, peuplent des paysages urbains ou bibliques. Ils ne nous regardent pas et ils ne nous disent rien. Mais au-delà, il y a le songe dans lequel nous plonge Pierrot, à qui Vasari inventa une enfance sans père et dont il raconta, étrange destin d'un peintre, la cécité de sa vieillesse. Cette vie à peine connue, qui redouble notre rêverie à l'oxymore répété, de l'impassible véhémence, des guerres statiques et des violences aux gestes suspendus, de la perspective close comme les yeux de ces vierges. Cette écoute du rêve et de la nuit, dit Jean-Paul Marcheschi.
C'était un artiste central qui a été célébré de son vivant, appelé à toutes les cours, appelé par le pape, enfin qui a été au centre de sa société, qui était quelqu'un, c'est pas du tout, on n'est pas là dans la configuration de l'artiste rebelle du tout. C'est un artiste miroir, c'est un artiste, ce n'est pas un artiste du non, n'est-ce pas? C'est pas un artiste critique, il n'y a pas la moindre critique, la moindre ironie vis-à-vis de ses commanditaires dans aucun des aspects de cette œuvre. On sait que ne reste de cette œuvre peut-être que 40%. Non, c'est très difficile de penser qu'est-ce qui a pu produire cette disparition pendant, ça a duré 4 siècles, n'est-ce pas, de cette œuvre qui a été, par chance, je dirais, immédiatement saisie par Vasari dans ses vies. Et la vie de Pierrot par Vasari témoigne d'une admiration absolue.
Dans sa jeunesse, il s'adonna aux mathématiques. Et bien que dès l'âge de 15 ans, il fût orienté vers la peinture, il ne les négligea jamais. Faisant des progrès merveilleux en cette science et en cet art, il fut employé par Guidobaldo Feltro, l'ancien duc d'Urbain, pour lequel il fit quantité de tableaux très beaux, à petites figures, dont la plupart ont péri au milieu des guerres qui ont à plusieurs reprises bouleversé cet état. On y conserve cependant plusieurs de ses écrits sur la géométrie et la perspective, dans lesquels il ne fut inférieur à personne de son époque et peut-être de tout temps. Tous ses ouvrages le prouvent. Il renferme un grand nombre de constructions perspectives, notamment celle d'un vase traité en face et en carré, de manière à être vu par derrière, par devant et de chaque côté, avec le fond et l'ouverture. C'est un merveilleux dessin, car il a tracé savamment et avec bonheur tous les détails et raccourcis de toutes les sections.
Il ne se projette pas dans sa peinture, c'est un type très extérieur, très distant, très immobile, si je veux dire, très discret par rapport à sa peinture. Et je ne crois pas qu'il soit présent.
L'artiste reste en retrait de ce qu'il...
Absolument. Enfin, à mon avis, hein, ce n'est qu'un avis personnel, mais ça ne correspond à rien de sa peinture. S'intégrer dans sa peinture est contraire aux gestes fondamentaux de Piero da Francesca.
Mais il est vrai qu'on sait très peu de choses, sinon rien, de la vie de Piero de la Francesca.
Ben, on ne sait pas rien. Enfin, Vasari a inventé une vaste fable. À la fin de sa vie, il serait devenu aveugle. Enfin, on le promenait dans les rues parce qu'il était aveugle, mais on ne sait rien. Mais rien, c'est rien. C'est ça qui est... D'ailleurs, c'est un peu ça qui est admirable, d'ailleurs.
Il reste l'œuvre,
qui est absolument merveilleuse, formidable, enthousiasmante à mes yeux, mais sur Pierrot, on ne sait rien.
Dans un cirque de nos collines, couvertes d'antiques cultures, et que l'on dirait presque redevenues les traces spontanées d'une activité animale, en un mois sans guerre ni tension, le lit de ce fleuve qui court à travers la contrée n'a ni tache de sang, ni tronçon de lance, ni plaque de cuirasse, mais apparaît net et sec, et avec les seules tiges brunes de quelques plantes éphémères, on voit scintiller les murs de chaux d'une cité lointaine. À cette heure où le vent se tait, l'eau reflète ciel et collines avec une impeccable netteté. Sur cette eau se découpe la figure du Christ, arrêté en une attitude d'adoration. À sa droite, Saint Jean-Baptiste, soulevant son bras pour baptiser, la tête couverte d'une toison naturelle, son corps revêtu d'un sillon qui semble taillé dans l'écorce de l'arbre voisin. L'arbre même, dans la façon qu'il a de se poser, a l'air presque humain, avec la blancheur de son tronc et sa riche frondaison rythmée. Il a laissé un peu à l'écart, en arrière, un arbre plus petit, d'une autre forme, et dirais-je, quant à son feuillage, d'un autre tempérament. Debout, entre ces végétaux, trois adolescents ailés sont là, qui ont un peu cet air androgyne qu'on trouve parfois chez les jeunes paysans.
Salvatore Rotolo, quand vous parlez de Piero della Francesca, vous parlez, chez ce peintre essentiel dans le Quattrocento, vous parlez d'une tension.
La tension est entre une expression naturaliste et une expression géométrique. Je pense que ces figures sont des figures géométriques qu'il insère dans une trame naturaliste, dans une perspective qu'il va élaborer de plus en plus, mais sans jamais céder à ce naturalisme dont Masaccio, par exemple, va être un des premiers vecteurs. On peut dire cela comme ça. Et c'est très intéressant de comparer le baptême du Christ de Piero della Francesca et le baptême de Masaccio. Effectivement, on voit chez Masaccio le naturalisme, on voit les muscles frissonnants, on voit frémissant, on voit le...
On voit l'expression
des personnages, la sensualité, on voit toute la chair, en fait, frémissante devant le moment important, s'il en est, de l'histoire chrétienne.
Alors là, on va regarder justement quelques images à l'ordinateur. C'est Masaccio.
Donc voilà, lorsqu'on voit le baptême du Christ de Masaccio, on voit le Christ agenouillé, mais on voit un corps qui n'est pas exactement celui auquel on a tendance à associer le Christ, c'est-à-dire on voit un athlète à demi nu, enfin pratiquement nu, dont on voit une partie des poils pubiques d'ailleurs, et d'une sensualité à laquelle on n'a pas coutume d'associer le Christ à cette époque. Évidemment, à l'époque plus tard, Michel-Ange, mais pas à l'époque de Masaccio. Voilà, cette expression d'émotion, de sensation, voilà tout ce que Piero va systématiquement éviter, parce que son propos est bien au-delà. On a ici un tableau d'une immobilité parfaite où tout advient sans que le mouvement ne soit noté. On voit effectivement l'ombre sur une jambe de Saint Jean-Baptiste. On voit un pied levé, mais tout cela n'empêche pas de souligner l'absence de mouvement, la staticité parfaite du tableau. Il est à noter que Piero établit à ce moment-là une analogie entre le corps cylindrique, pourrait dire, du Christ et le tronc de l'arbre, qui sont mis exactement sur le même plan, et également d'autres analogies entre la courbe du Jourdan et le catéchumène derrière qui se déshabille et qui également forme une courbe avec son corps. on a l'impression que tout cela est donné avec le même statut ontologique, l'arbre, le fleuve, la colombe, les nuages, le paysage derrière. Tout cela appartient au créé, tout cela est l'expression d'une volonté divine. On n'est pas intéressé par la personnalité individuelle, par les sensations, par les sentiments de tel ou tel personnage, puisque l'ensemble participe d'un destin commun, d'une volonté commune, aussi bien les personnages, aussi bien les personnes, que les objets, que les arbres, que les nuages, que le ciel, la lumière. Il n'y a pas de propagation de lumière. La lumière est parfaitement immobile. Elle se reflète dans le fleuve, si on veut, mais nous voyons très bien qu'il n'y a aucun frémissement, que c'est une réflexion qui tombe parfaitement plate.
Étienne Jollet, il y a une manière contemporaine de percevoir Piero della Francesca. Il y en a eu de différentes, sans doute, depuis le Quattrocento. Mais aujourd'hui, comment est-ce que l'on perçoit l'œuvre de Piero della Francesca ?
Il est vrai que la multiplication de registres, de production, de textes sur les artistes définissent un spectre du personnage qui va d'une figure centrale d'une renaissance italienne attendue dans la recherche d'une certaine harmonie, d'un certain ordre, jusqu'à des aspects plus surprenants, et notamment en ce qui concerne Piero della Francesca, l'accentuation de son œuvre Piero intellectuel. La traduction récente des prospectives à Pingendi en est, je crois, le témoignage, et correspond à une volonté de ressourcer l'histoire de l'art en la plaçant dans ses rapports avec l'évolution des savoirs, et notamment des savoirs scientifiques. La perspective joue ici un rôle essentiel. C'est à la fois notre discipline, l'histoire de l'art, et l'objet d'étude, en l'occurrence, la Renaissance italienne, qui tous les deux, et là en phase, tendent à privilégier ce rapport à la science. Il s'agit d'une double entreprise de légitimation. C'était le cas pour la peinture au début du XVe siècle. On va tirer du côté des mathématiques, des arts libéraux, pour valoriser l'art. Et de même, aujourd'hui, nous avons tendance à toujours privilégier les aspects les plus intellectuellement gratifiants, et notamment ce rapport au savoir complexe, aux sciences. C'est donc une des composantes majeures. La deuxième, c'est en rapport avec certaines évolutions contemporaines des sciences humaines, et notamment la psychanalyse. On doit évoquer un souvenir d'enfance de Piero della Francesca de Hubert d'Amiche à ce titre.
Des perspectives à Pingendi, de la perspective en peinture, Piero della Francesca. La peinture comprend en soi trois parties principales que nous désignerons par le dessin, la commensuration et la mise en couleur. De ces trois parties, je n'entends traiter que de la commensuration, que l'on appelle perspective, y mêlant quelque peu le dessin, car sans le dessin, on ne peut démontrer la perspective dans les faits. Cette partie comporte en soi cinq divisions. La première est la vision, c'est-à-dire l'œil. La seconde est la forme de la chose vue. La troisième est la distance de l'œil à la chose vue. La quatrième est l'ensemble des lignes qui partent du contour de la chose et qui vont à l'œil. La cinquième est le lieu déterminé qui se trouve entre l'œil et la chose vue où l'on entend représenter les choses. Considérons un carré dont un côté serait divisé en plusieurs parties inégales. Si des points de division, on mène des lignes parallèles aux côtés et que l'on mène la diagonale.
Alors,
à partir
si on veut revenir justement sur ce traité de perspective qu'a écrit Piero della Francesca, dans quel état d'esprit l'a-t-il écrit et nous, aujourd'hui, enfin les critiques, les historiens de l'art aujourd'hui, comment l'aborde-t-il? Au fond, quel est l'intérêt d'aller se replonger dans ce traité de perspective de Piero della Francesca?
Mais je crois que c'est là aussi à inscrire dans une évolution de façon peut-être regrettable les universitaires, les historiens de l'art de façon générale vivent beaucoup en réaction par rapport à la génération précédente, et c'est notamment le cas dans une discipline très jeune et très fragile comme la nôtre. Et du coup, il s'agissait, je crois, d'extirper Piero della Francesca d'une vision trop empathique, trop liée à un partage de la sensation sur lequel un certain nombre d'historiens de l'art avaient mis l'accent. Alors, ce sont ces différentes figures que l'on peut associer au sein d'une même approche que l'on résume d'ordinaire avec un vocable qui est fortement, fortement dépréciatif aujourd'hui, terriblement dépréciatif, c'est formaliste. Cela dit, aujourd'hui, il me semble à titre personnel, et nous sommes un certain nombre à le penser, que si formalisme signifie s'intéresser à la complexité interne de l'œuvre d'art et rendre compte du fonctionnement interne, avec bien sûr comme corollaire la recherche des systèmes de causalité expliquant cette complexité interne, alors il faut au moins être un temps formaliste, et un certain nombre de personnes autour de Piero della Francesca dans l'entre-deux-guerres l'ont été, je crois, de façon extrêmement intéressante.
Alors Étienne Joly, qu'est-ce qu'on peut appeler le formalisme chez Piero della Francesca? Là, peut-être que pour comprendre, ce serait nécessaire d'entrer dans sa peinture, et dans sa représentation, dans ses tableaux ou dans ses fresques.
Alors, bien évidemment, hein, c'est un terme qui va être parfaitement anachronique hein, vis-à-vis de l'artiste, qui, encore une fois, apporte de telles connotations qu'il est difficile à supporter. Non, ce que je crois le mieux à faire serait d'utiliser le parcours réalisé par un certain nombre de historiens de l'art pour remonter vers quoi? Alors, ça ne serait sans doute pas une vérité sur Piero, mais tout simplement, moi, je serais finalement à dire que un historien de l'art, c'est simplement faire remarquer quelque chose. Hein. On fait remarquer. Là, je suis très, très fidèle à ce que je considère comme le message dernier d'un de mes maîtres, Daniel Arras, hein, qui vient de décéder. Il s'agit de faire remarquer des choses. Et un certain nombre de ces historiens de l'art font remarquer quoi? Eh bien, en l'occurrence, le fait qu'il y ait une ostentation de la forme, hein, au sens où il y a un triomphe réalisé très récemment par Masaccio de l'expression de la tridimensionnalité, d'un volume, et là la forme devient, c'est le volume tel qu'il est exhibé, je dirais, dans sa gloire nouvelle. Les nouvelles techniques d'ombre et de lumière permettent en effet de créer cet effet de volume, et notamment du côté des clairs, non pas en travaillant du côté des ombres, mais des zones plus claires qui tendent à créer l'impression de volume, et là-dedans, une lumière qui vient sans cesse tendre le rapport que nous pouvons avoir à ces volumes. Pourquoi tendre le rapport? C'est que la forme est vécue dans une plénitude nouvelle, et en même temps la lumière est là, à la fois pour la célébrer, parce qu'il faut la lumière pour voir la forme pleine, mais en même temps pour l'interroger, pour la limiter, parce qu'il y a des effets de saturation lumineuse, par exemple, qui font que la forme finit par disparaître. Il y a un jeu sur les contours qui est tout à fait délicat et complexe, hein, et un vocabulaire très riche sur le contour que l'on retrouve chez Alberti rend compte de l'intérêt des artistes du temps pour cette question. Si bien que il y a à la fois forme et tendance à limiter la portée de la forme pour d'autres modalités plus fines, c'est le diaphane, les jeux complexes avec l'échelle des motifs et jusqu'à un certain degré d'invisibilité. Tout cela fait que l'attention portée par un certain nombre d'historiens de l'art eh bien, est tout à fait légitime et rend compte d'un aspect fondamental de l'œuvre.
Et Elles se glissent parmi les strates de la réalité sans s'identifier à aucune. Elles sont bornes pour qui les regarde, non miroir. On ne peut leur répondre par le simple vœu de les lire ou de les comprendre. Il faut en quelque sorte les devenir. Elles imposent l'épaisseur et les purs. Leur invention est une réalité seconde, affranchie des prisons formelles. Qui les a peintes? Piero della Francesca, ou la convergence entre ses mains d'énergie qui l'ont précédée? Ou encore le geste devenu nature? Dans sa répétition, il y a toujours un peu d'une première fois qui persiste.
C'est peut-être ça son aspect insaisissable. Je crois qu'il y a un abus, ce serait anachronique que de l'associer au formalisme. Le mot n'existait pas, ça n'a pas de sens. Mais on ne peut pas ne pas observer cette extraordinaire force de la conceptuelle, enfin, de la construction, de la forme. Dans cette œuvre qui est vraiment exceptionnelle, au point même que ça fait songer, les commentaires négatifs souvent ont évoqué une sorte d'impassibilité, d'anonymat, d'incompréhensibilité. Donc c'est une œuvre paradoxalement qui à la fois se retire, hein, c'est une sorte de refus de l'expression immédiate. C'est une sorte de mise en retrait de soi. C'est une œuvre qui accepte, Vasari le dit d'ailleurs, Piero a mis son ardeur à se pencher sur les œuvres d'art. Donc c'est une œuvre délibérément intellectuelle. Donc il y a quelque chose qui s'accorde mal avec la mélancolie d'un Pontormo, avec la dimension rétive, rebelle d'un Michel-Ange. Bon. Au fond, ce qui est frappant aujourd'hui, si on s'éloigne, si on n'a plus l'œuvre sous les yeux, je dirais, c'est sa force de rémanence. Elle a une incroyable, et c'est paradoxal, puisque elle semble faire le deuil partiel d'elle-même, de soi-même, du réel, et étrangement, c'est une œuvre qui nous revient, les yeux clos, quand nous nous promenons. Je ne peux pas regarder le ciel, le grand ciel de l'été notamment, sans penser, ni même le nuage, c'est une incroyable réserve. D'ailleurs, on voit de nuages. Donc, il y a à la fois une sorte de... Si on reprend l'expression de Mallarmé, une sorte de suspens de l'interprétation. C'est une comme si Piero ne nous imposait pas d'interprétation. On ne sait pas trop où il est. On est dessaisi, comme si lui-même acceptait d'être d'une certaine façon dessaisi de lui-même, comme s'il prévoyait que s'il nous laissait la place, il laissait la place à nous, qui venons 5 siècles après sa mort, qui venons comme un interprète arrive devant une partition musicale. On n'est pas devant une œuvre expressive qui vient en amont, il n'y a pas de prosélytisme, on ne vient pas nous dire ce qu'il faut en penser, au contraire. On a l'impression que l'œuvre attend. Elle attend, d'une part, en effet, peut-être que nous l'achevions, que nous la complétions, ou que nous la, peut-être, poursuivions. Mais c'est ça peut-être un des paradoxes de cette œuvre, c'est... Et peut-être qu'il faut mettre en rapport ceci avec cela, c'est-à-dire cet incroyable goût du chiffre, du nombre, cette surrationalité n'est pas du tout la marque d'un dessèchement, c'est tout le contraire. Je crois qu'en réalité, un des thèmes qui parcourt l'œuvre, c'est bien le thème du sommeil. Je pense que le sommeil qualifie véritablement un des thèmes forts de l'œuvre, mais aussi ce que Léonard va appeler plus tard les corps difficiles à nommer, les corps qui sont rebelles, au fond, au dessin, ce que Léonard appelle les corps sans surface, à savoir tout ce qui, dans nos existences, ou dans tout ce qui tombe dans l'œil, échappe au fond à la formalisation, c'est-à-dire au fond la clarté. Pour moi, c'est une œuvre de la clarté, du grand soleil, du grand soleil zénital. C'est donc tous les mouvements de la lumière. Il y a une incroyable exploration de toutes les formes précisément qui échappent au nom, qui échappent au dessin, qui sont les formes des nuages, une sorte de une incroyable invention, captation, donc, de ces corps-là.
Des nuages qui sont parfois colombes.
Exactement. Alors, c'est un aspect aussi, je trouve merveilleux, cette indication de la colombe fait allusion au baptême du Christ. Je crois qu'il faut revenir un instant sur ce tableau merveilleux, qui est Pierrot avant Pierrot. C'est Pierrot encore très marqué à la fois, sans doute, par la polychromie et le raffinement de Frangelico, qui est encore marqué par ce maître qui va le former, qui est Veneziano, et où on a donc au-dessus de la tête du Christ cette colombe horizontale, dont il faut bien souligner qu'elle imite le mouvement des nuages. Et je crois que c'est presque une allégorie, je dirais, des aspects les plus secrets de cette œuvre. C'est-à-dire que cette œuvre se soustrait d'une certaine façon, et c'est paradoxal, à la forme et au nomos, pour au contraire, comme si l'oiseau imitait la lumière.
Ça fait bon, maintenant 30 ans que je refais tous les 2-3 ans, sauf que je dirais l'itinéraire Pierrot da Francesca. C'est-à-dire que je pars de Pérouse, hein, où il y a le polyptyque, je vais à Borgo San Sepulcro, Monterchi, où il y a la Madonna del Parto, je vais jusqu'à Urbino, la flagellation du Christ, et puis je vais jusqu'à Rimini, hein, où il y a le portrait de Sigismond Malatesta. Donc pour moi, c'est une espèce d'itinéraire sacré, vous savez, c'est un peu idiot, entre guillemets, mais c'est un itinéraire sacré, donc je referai, je le fais à Pâques, encore une fois, et j'essaie de comprendre. Je crois que c'est un artiste extrêmement particulier. Les autres artistes de la Renaissance, mettons, je prends Paolo Uccello, hein, par exemple, s'enfoncent dans la perspective. Et Pierrot da Francesca fait un geste extraordinaire et dit: si la peinture part dans la perspective, la peinture va mourir. Et lui fait de l'ornement et essaie de sortir de la perspective. Et ça, c'est un geste tout à fait extraordinaire, incroyablement neuf à la date. Lui, il essaie de ressortir de la perspective, hein. Pas s'enfoncer dans la perspective, mais en ressortir.
Alors qu'on est au début, finalement, de la théorisation de la perspective, déjà.
Oui, au 15e, oui, on est au début. Lui essaie d'en ressortir. C'est un geste complètement extraordinaire, enfin, fabuleux à la date, comme s'il prévoyait qu'au 19e, on ferait du pompier, etc., de la représentation, etc. et laisser de s'extraire de la perspective.
L'église est très, très spacieuse, très lumineuse, et donc depuis l'entrée, on a tout l'espace basilical à parcourir jusqu'au maître-autel, et en fait on voit déjà de très loin ces fresques qui ont été restaurées à plusieurs reprises, qui l'ont d'ailleurs été à nouveau tout récemment, et la chapelle est assez lumineuse puisque le mur du fond est percé d'une grande fenêtre, ce qui fait que contrairement à beaucoup de cycles muraux du Moyen-Âge ou de la Renaissance, en fait on voit par lumière naturelle, on voit très bien, et les couleurs étant très claires, en fait, il y a une très grande lisibilité de l'ensemble du cycle. Lisibilité des formes, maintenant lisibilité du fonctionnement narratif, c'est autre chose.
Une des grandes œuvres de Piero della Francesca, c'est évidemment le cycle de la croix d'Arezzo. Alors, c'est un cycle qui est le récit d'une histoire qui a un support textuel, mais qui est une histoire recomposée par Piero della Francesca.
Effectivement, le support textuel de ces fresques, c'est Jacques de Voragine, La Légende Dorée, dont deux chapitres sont consacrés à l'histoire de la croix du Christ, car cette croix a une histoire bien antérieure à la crucifixion et qui se poursuit longtemps après la crucifixion. Elle commence en effet cette histoire à la mort d'Adam et elle se termine par, après avoir été volée, retrouvée, elle finit par revenir victorieusement, si je puis dire, à Jérusalem. Et c'est donc cette histoire très complexe que le compilateur dominicain Jacques de Voragine raconte dans deux chapitres de La Légende Dorée. Et c'est de ce texte que, non sans écart, s'inspire donc Piero della Francesca pour décorer les murs de la chapelle principale, la chapelle du maître-autel de l'église San Francesco à Arezzo.
Donc Piero reconstruit cette narration, cette histoire en quelques épisodes. Quelques épisodes déjà qu'il choisit.
Oui, quelques épisodes qu'il choisit. Il faut dire qu'il y a une tradition, il y a plusieurs églises décorées de cycles de la croix, donc Piero della Francesca n'a pas à inventer la mise en image. Mais à l'intérieur de cette tradition, il choisit. Et il choisit de manière apparemment disparate, apparemment très, très surprenante, puisque les épisodes ne se présentent pas dans l'ordre du déroulement narratif. Bien entendu, tous les épisodes n'y figurent pas, mais on pourra dire tout simplement qu'il n'y avait pas la place de tout faire figurer. Le plus surprenant, c'est qu'il n'y a pas un déroulement narratif continu, c'est-à-dire qu'il faut chercher par où ça commence. Il faut chercher par où ça commence et donc il faut en somme être mobile, se tourner à droite, se tourner à gauche, regarder en face, en haut, en bas bien sûr, pour arriver à trouver comment ça s'agence. Et de toute façon, lorsqu'on a compris à partir du texte, car cela présuppose que l'on ait une connaissance du récit textuel, on sera obligé malgré tout d'effectuer des rotations, en somme, de se déplacer, de regarder, si on veut voir le premier épisode du cycle, en haut à droite, pour ensuite descendre, tourner, remonter, et donc effectuer toutes sortes de pivotements dans l'espace réel. Et c'est lui donc qui a mis au point ces savantes ruptures, enfin, qui désorientent le spectateur et qui l'oblige donc à chercher quel est l'épisode suivant.
Ces fresques renferment des idées et des attitudes dignes d'éloges. Ainsi, les costumes des suivantes de la reine de Saba exécutés dans un style délicat et nouveau. De nombreux portraits de personnages antiques d'une grande vérité. Une colonnade corinthienne divinement mesurée. Et un paysan qui, les mains appuyées sur sa bêche, écoute si attentivement Sainte Hélène pendant que l'on déterre les trois croix qu'il est impossible de mieux faire.
Et donc on a sur le mur de droite la croix sous trois espèces qui sont qui ne sont pas la croix, en fait, hein, qui ne sont pas la croix, mais qui s'inscrivent dans cette longue histoire du bois de la croix, qui évidemment répond à un plan que Dieu, dans son omniscience, sa sagesse infinie, a programmé, si je puis dire, depuis toujours. Hein. Et de l'autre côté, en revanche, on va trouver la croix sous des espèces, sous son espèce matérielle. Mais il faut passer pour cela par le mur du fond de la chapelle aussi.
C'est d'une certaine manière faire de l'histoire. Il s'agit évidemment d'histoire chrétienne. Pratiquement, on peut dire, pas toutes les œuvres, mais la grande majorité des œuvres de Piero della Francesca nous parlent de l'histoire chrétienne. Donc c'est cette histoire linéaire à laquelle, paradoxalement, les hommes semblent prendre part, mais de manière secondaire. On pourrait dire que leur histoire est importante, mais secondairement par rapport à l'histoire de la croix, dans la mesure où les personnages qu'ils insèrent sont effectivement à l'intérieur de sa trame perspective, mais on sent bien qu'il la conditionne, presque qu'il la courbe, hein, comme un objet dans l'espace qui courberait autour de lui les lignes de force. On sent que dans les tableaux de Piero, l'espace est courbé autour des figures, ou que les figures sont insérées à l'intérieur de cet espace courbe de manière proportionnelle, de manière à souligner que leur importance est soumise et conditionnée par leur appartenance à une fonction, à un ordre des choses qui les dépasse, qui était établi bien avant eux, qui se poursuivra après eux. C'est la fonction. On peut penser au statut colonne, si vous voulez, hein, de l'époque romane ou bien de l'époque encore archaïque, grec, où on voit effectivement des personnages représentés, mais leur forme cylindrique est là pour rappeler que ce qui importe, ce qui nous importe, c'est leur fonction dans l'ensemble, et non pas leurs propres sentiments, leur âme, comme dit Bernard-Henri Lévy.
Surtout pas d'âme, dit-il.
Voilà, surtout dit-il. Pas d'âme. Voilà. On n'est pas intéressé pour la simple raison qu'ils sont l'expression d'un destin qui les dépasse, qui est immuable, qui est atemporel, qui ne laisse pas de place au doute, à la perplexité, à l'interrogation, qui les anime d'une volonté absolument sans faille et qui dicte leur action à la recherche de cette perfection qui est la marque non pas d'une intervention divine au quotidien, mais de l'expression du divin à tout moment et dans chaque chose. Ce ne sont pas des hommes aidés par Dieu pour effectuer tel ou tel, ce sont des êtres qui, dans leur essence, sont là pour remplir un dessein. Et, encore une fois, leur histoire est soumise à l'accomplissement de ce dessin.
Et ce qui accentue encore cet effet, c'est ce qu'on pourrait appeler une tendance à la réification ou à la pétrification des figures, qui fait que nous sommes très près de l'objet. Et donc, lorsqu'il y a des objets ou des motifs inanimés et ces figures qui ne bougent guère, tout de même pour la plupart, eh bien, il y a cette espèce d'effet de suspens général, je crois que c'est un terme fondamental hein, pour comprendre l'esthétique de Pierrot, et qui, a provoqué chez un certain nombre d'historiens de l'art, eh bien, disons, un sentiment de découverte, hein, d'une nouvelle façon de concevoir la peinture.
Sur la perspective, en fait, il se contente de donner des lois de construction géométrique que le peintre pourra appliquer à son tour, mais il ne se livre jamais à aucune considération sur ce que doit être l'histoire en peinture, comment le peintre doit mettre en scène l'histoire qu'il représente, à la différence justement d'Alberti, son prédécesseur. Enfin, Alberti n'est pas peintre, mais c'est Alberti a écrit le premier. Le théoricien, l'auteur du premier traité sur la peinture d'histoire, même s'il n'emploie pas directement ce terme, il parle de l'histoire peinte, et c'est le premier, Alberti, en 1435, à avoir théorisé la construction perspective, mais en des termes beaucoup plus simples, et visant à atteindre un public beaucoup plus large et beaucoup moins, familier de la géométrie et des constructions extrêmement subtiles qu'élabore Piero della Francesca. Chez Alberti, il y a une visée de clarté. L'histoire doit être claire, elle doit donner l'impression d'accomplir une action, c'est le terme exact qu'il emploie, rem agere, et non pas de tumultuare, et non pas de s'agiter en désordre, voire de tourner à l'émeute, hein, parce que tumultus veut dire aussi le soulèvement populaire incontrôlé, enfin le populace qui se déchaîne. Non, pour Alberti, l'histoire doit être ordonnée et claire. Donc il y a une maîtrise de l'homme sur l'histoire, enfin maîtrise visuelle de l'homme, du peintre et du spectateur sur l'histoire qui est donnée à voir par le peintre. Ça, c'est la position d'Alberti. Et visiblement, si on se fie à ses œuvres, Piero della Francesca est aux antipodes d'Alberti. D'une certaine façon, c'est un peintre réactionnaire, ce qui est paradoxal puisqu'il est très moderne, puisqu'il propose une théorisation extrêmement, des règles de construction perspective pour des objets géométriques à forme extrêmement compliquée, que lui-même, dans sa peinture, réalise des constructions perspectives toujours parfaitement rigoureuses, extrêmement bien faites. Donc, par certains côtés, il est tout à fait moderne, mais cet instrument, disons, de la modernité visuelle, enfin, il le fait jouer à contre-emploi, du moins, il ne le fait pas jouer comme Alberti voulait le faire jouer, comme la majorité des peintres le font jouer. Pour lui, en fait, ça met en place un lieu dans lequel se déroule une histoire que l'homme n'a décidément, l'homme sans Dieu, pour employer une expression anachronique, n'a pas la possibilité de comprendre. Et je pense que ça se retrouve dans l'étrange impassibilité de ces personnages.
Il me semble, Maurice Brock, qu'on a même prononcé le mot d'archaïsme à son propos. Quand vous parliez de cette modernité en même temps, du placement des personnages ou des espaces.
Oui, il y a un archaïsme de Piero della Francesca, mais c'est un étrange mélange d'archaïsme et de modernité. Les lieux architecturés chez lui sont très modernes grâce justement à la construction perspective. D'autres éléments très modernes sont les emprunts à la peinture flamande, par exemple l'attention aux textures, les effets de reflets sur les armures, pas dans le cycle de la croix, mais dans des tableaux de dévotion privée ou des tableaux d'hôtel. Il peut traiter des perles, des cheveux d'ange avec une très grande minutie, avec des effets de réel extrêmement poussés. Donc, de ce point de vue-là, il est tout à fait à la page, tout à fait au goût du jour. Il connaît la peinture flamande la plus récente. Ses corps ont du volume. La réception des lumières, pour employer le terme d'Alberti, est très très cohérente chez Piero della Francesca, ce qui contribue donner du volume au corps. Donc tout cela est extrêmement moderne. En même temps, donc, il y a cet archaïsme dans l'étrange absence de ces personnages à leur propre histoire.
Au centre du mur est peinte la fresque sublime. La reine de Saba rend visite à Salomon. Draperies impalpables sur d'abstraits corps de femme. Parfaite harmonie d'une scène que toute émotion a désertée. Le groupe des suivantes s'inscrit dans la plénitude du cercle. Son rythme immuable est celui du cérémonial. Si peu de vie sépare leurs lignes épurées de celles des arbres et des colonnes. Figures humaines aux contours si précis que leur individualité s'estompe. Formes qui, par trop de définitions, se trouvent diluées. Les yeux mi-clos sur leurs regards absents, elles esquissent d'improbables sourires. Énigmes posées sur l'espace ignoré. Musique à peine pressentie. Être inconnu
de même que Léonard voyait les figures dans les taches des murailles ou mieux.
Mais
au contraire de Léonard, Pierrot les voyait d'abord dans les cages muettes des théorèmes euclidiens.
Entre une tête asexuée, jeune page ou
en fait, on est presque émerveillé lorsqu'on découvre soudain que ces courbes rares et amples, ou que les intersections les plus droites appartiennent vraiment à des formes suprêmes de nuque et de coiffure, de ceinture et de sein, de bassin et d'encolure. Cette façon de faire découler le monde et ses circonstances d'une sorte de prévision stylistique songeuse sur les bases de laquelle, une fois celle-ci posée, tout vient se développer dans les limites d'une fatalité luxueuse, c'est bien là un des traits les plus typiques de Piero della Francesca. En effet, pour peu qu'on extrait avec précaution quelques fragments de ces admirables composés cristallins d'hommes et de paysages, on voit alors leur situation apparaître avec une liberté d'une nouveauté inouïe, avec une plénitude picturale dont rien n'approche. Ici, entre les montueuses saillies des nuques et des fronts, apparaissent les déclivités des joues, les fûts tendres et blancs des coups, les fentes subtiles des yeux, et les primes végétations des cheveux poussés avec le rythme naturel des surgeons les plus drus, celles des sourcils, pointant rares comme de maigres fils d'herbe sur le rebord des fossés. Voyez l'ombre, qui ne s'accumule point ici, grumeleuse comme chez Masaccio, mais telle une légère peluche, file des hachures sur ses éclaircies pour les voiler à peine.
Une fresque qui peut poser question, c'est la présence d'une annonciation, par exemple,
effectivement,
dans le cycle de la croix.
Oui, il y a une annonciation dans le cycle de la croix, et Jacques de Voragine évoque, il parle de l'annonciation, mais ailleurs, évidemment. Que vient faire l'annonciation ici? Bien, précisément dans le cycle de Piero della Francesca, les épisodes que aujourd'hui nous connaissons de l'histoire de la croix, à savoir le portement de croix, la mise en croix, la mort en croix, la descente de croix, eh bien, aucun de ces épisodes ne figure sur les fresques. Aucun, d'ailleurs, n'est raconté par Jacques de Voragine, puisque c'est les deux chapitres qu'il consacre à la croix portent sur la croix avant et après, sauf pendant la Passion. Or, Piero della Francesca a introduit, effectivement, sur le mur du fond, à côté de la gauche de la fenêtre, une annonciation. Les historiens se sont souvent demandé ce qu'elle venait faire là. Effectivement, d'une certaine façon, elle est tout à fait incongrue. En fait, elle est très facile à comprendre. L'annonciation n'a de sens que parce que Si la Vierge Marie dit oui, bien sûr, l'incarnation se produit et l'incarnation est finalisée, Dieu l'a voulu de toute éternité, à la rédemption, c'est-à-dire à la mort du Christ sur la croix. Donc il y a théologiquement un lien tout à fait fort entre l'annonciation, c'est-à-dire l'incarnation, et la crucifixion. Ce lien d'ailleurs, Piero della Francesca, en grand géomètre, en grand perspectiviste, le donne à voir de manière à la fois aveuglante et cachée par la structure même de l'image, hein, par la structure de cette annonciation qui est quadripartite. Le champ de l'image, c'est un rectangle tiré en hauteur, coincé entre l'angle de la chapelle et la fenêtre. Eh bien, il le divise en quatre rectangles égaux par l'architecture qui est censée représenter la maison de la Vierge. Et là, il est tout à fait conforme à une typologie extrêmement fréquente en Toscane d'annonciation, où l'on a à droite la maison de la Vierge, avec de diverses façons la suggestion d'un intérieur inaccessible, qui renvoie bien sûr à la virginité de Marie, une zone intermédiaire où Marie peut recevoir la visite de l'ange, et dans la partie gauche, un extérieur par lequel arrive l'ange. Et l'architecture donc qui donne à voir ce lieu, donc l'extérieur pour l'ange, un portique sous lequel se trouve la Vierge à droite, et à l'étage, au-dessus du portique, une chambre, dont on voit par la fenêtre à demi ouverte, ben justement qu'on ne peut rien y voir, l'intérieur est noir, et doit nous échapper justement. Il s'agit de préserver évidemment l'intimité, la virginité de Marie. Et donc cette architecture est mise en place de telle façon qu'elle recoupe qu'elle recoupe l'image en quatre.
Et alors au coin gauche, en haut.
Et en haut à gauche, dans le ciel,
effectivement.
Voilà. Dans le quart en haut à gauche, il y a Dieu le Père, ce qui, là encore, est tout à fait traditionnel. Alors, cette quadripartition du champ de l'image, qui est tout à fait traditionnelle, Piero della Francesca la reprend et l'utilise pour donner à voir une croix, en coupant en quatre le champ de l'image, mais en même temps, c'est plus subtil, puisque, effectivement, recouper en quatre un rectangle, ça fait une croix, c'est très simple, mais cette croix n'est pas parfaitement visible, puisque il y a bien l'arête verticale de l'architecture, à la limite de la maison de la Vierge. On a l'arête du mur en haut, en bas on a une colonne qui fait juste l'angle de la maison, et donc l'axe vertical médian de l'image est parfaitement tracé. Mais c'est au niveau des horizontales, donc des bras de la croix, que Piero della Francesca introduit un décalage entre la partie gauche et la partie droite, puisque la séparation entre le rez-de-chaussée et le premier étage, pour dire ça en termes courants, comme nous voyons l'image par en dessous, que l'architecture est construite en perspective, eh bien, l'entablement donc, qui marque la séparation entre le rez-de-chaussée et le premier étage nous apparaît plus bas dans la partie gauche, au-dessus de l'ange, et beaucoup plus haut dans la partie droite, au-dessus de la Madone, ce qui fait qu'on perd l'effet bras de la croix. Il y a un décrochement. Les bras sont décalés, il y en a un qui est plus haut que l'autre, et donc on ne voit pas la croix. Pour la voir, il faut restituer en somme l'élévation de l'architecture, c'est-à-dire faire abstraction des déformations apparentes introduites et codifiées et régies par la construction perspective. Eh bien, Piero della Francesca s'en sert en fait pour introduire une distorsion, une déformation qui, au lieu de rendre la croix plus visible, eh bien justement, rend la croix moins visible, difficile à percevoir. Pour parler familièrement, on pourrait dire qu'elle crève les yeux, c'est-à-dire qu'elle est absolument évidente, mais cachée.
Signaler, c'est à mettre sur le compte aussi peut-être de ces corps, de ceux qui échappent, mais que seul un système lié aux chiffres, parce que seul un chiffrage rigoureux peut permettre de faire apparaître, c'est la scénographie des regards. Il y a là, je crois, une incroyable exploration du regard. Et on pourrait presque dire qu'il y a une sorte d'alphabet de toutes les situations possibles du regard. Comme si le regard était précisément la part humaine qui manifeste le disparate, l'insaisissable. on a tous les états du regard. On a depuis le regard clos, le regard, l'œil fermé, qui signifie le sommeil, jusqu'à la violence, l'écarquillement, le regard mi-clos, la distraction. Il y a une incroyable invention dans l'ordre du regard. Et si on s'amusait d'ailleurs à tracer les lignes du regard, on obtiendrait étrangement un incroyable désordre. N'est-ce pas? Comme si le regard manifestait précisément le perdu, enfin ce qui est difficile, l'immaîtrisable, enfin ce qui échappe, et qui n'est pas loin de manifester précisément ce que Cézanne va montrer, à savoir une sorte de dislocation. Le regard, c'est ce qui échappe, c'est ce qui ne peut pas être contrôlé. C'est peut-être aussi à mettre sur le compte des corps sans surface.
Mais ces regards, en même temps, si effectivement Pierrot les épelle d'une certaine manière, oui. Ces regards souvent quand même ne nous regardent pas. Ils ne regardent pas un objet du tableau et on a l'impression qu'ils regardent en dehors du tableau, en dehors de la fresque, ou alors complètement à l'intérieur d'eux-mêmes.
Il me semble que, enfin, quand je regarde la figuration de l'œil chez Pierrot, on a continuellement ce sentiment d'une inadhérence au présent. On a toujours ce sentiment d'une perte, qui sont en état de distraction, qui sont soustraits au récit, qui sont captés par une toute autre méditation, qui sont captés par une autre histoire. Ils pensent à autre chose. Ce qui fait d'ailleurs que l'on peut encore investir, ça fait penser au fond à l'esthétique de Bresson. On a quelque chose qui est peu naturaliste. Ils se prêtent. Ils sont prêtés. Mais il n'y a aucune illusion. Ils sont pris dans leur propre histoire. Et nul ne peut leur ravir leur propre histoire. Il me semble que Pierrot a réussi à capter ça.
Et alors, vous parlez de Bresson et...
Et même le côté, qu'on a qui est tout à fait délibéré dans son cas, le côté monocorde, hein, le côté impersonnel de l'expression, et puis son goût pour les non-acteurs, qui n'est pas sans rien penser non plus au cinéma de Pasolini. N'est-ce pas? Où on a ce mélange de professionnels qui vont... Au fond, on a tous les degrés de l'adhérence au sens. On va avoir des expressions jouées, et puis on va avoir l'entrée... des corps non professionnels, de l'ailleurs, du monde.
Et pour rester dans le cinéma et dans les analogies cinématographiques, il me revient une phrase de Jean-Luc Godard qui dit « Au cinéma, le sang, c'est du rouge », qui nous met un peu, je trouve, dans cette idée de stylisation de la même manière que Pierrot nous met. Regardez ce sang du Christ ou ce sang de Saint-Sébastien, c'est vrai qu'on a envie de dire le sang c'est du rouge.
Oui, on est aux antipodes, puisque j'ai cité précédemment le Rosso. On sait que le Rosso, dans cette déposition bouleversante, enfin, difficile à regarder, par le drame, la beauté, la violence, la douleur qui l'envahit, mais aussi le degré d'invention extraordinaire, le Rosso a déterré un cadavre pour peindre le corps de Dieu. Et là, on est au plus loin. Dans le cas de Pierrot, comme vous le soulignez, même quand il s'agit, par exemple, de figurer dans le retable de Bréra, de faire une allusion à l'Eucharistie, à la mort de Dieu, au sang, à la crucifixion, à ce qu'elle a de douloureux, de sanglant, on est dans un système de formalisation extraordinaire, puisque le sang est saisi, en quelque sorte mis à distance et figuré comme du corail et devient une sorte de bijou, n'est-ce pas? C'est par le corail qui pend autour du sommeil de Dieu, de l'enfant Jésus, qu'est figurée la passion. Donc on est tout à fait au plus loin de ces esthétiques terribles. On n'est pas dans la terribilta, n'est-ce pas, dans le cas de Pierrot.
ces bras de possédés, ces dos sombres, ce chaos de verts soldats et de chevaux violets, et cette pure lumière qui voile tout de tonalités de fine poussière, c'est une bourrasque, c'est un massacre.
Il faut se mettre aux ordres du ciel, n'est-ce pas? C'est le ciel qui est aux commandes de l'être. Je crois que ça, c'est quelque chose qui va dominer l'ensemble de l'œuvre jusqu'à cette montée inouïe, enfin éblouissante de la lumière qui va, au fond, organiser le sommeil du retable de Brera. Donc, il y a là, je crois, un desserrement par rapport à certains nominalismes qui a dominé les expressions picturales jusqu'à lui, à savoir que ça n'est plus le nomos, le nom, qui est aux commandes de l'être, c'est une œuvre qui se souvient peut-être d'un état d'avant le langage et qui nous dit, l'oiseau lui-même, nous devons faire, et c'est le Saint-Esprit, donc c'est l'esprit peint, n'est-ce pas? C'est le, non pas le peint, le Saint-Esprit, mais le peint esprit, n'est-ce pas? L'esprit fabriqué avec de la peinture sur le modèle de la lumière. Je crois que ça, c'est ce tableau qui est dans cette position toujours émouvante des œuvres avant l'œuvre, puisque c'est l'extrême jeunesse de Pierrot, est déjà, je crois, le programme de l'œuvre. On pourrait ajouter, dans cette sorte d'envahissement de fosse, la lumière, la présence de ce qu'on pourrait appeler la réminiscence, car c'est aussi une œuvre qui, malgré son formalisme, et peut-être grâce à cette imposition de la forme, va au fond faire revenir l'infance. C'est-à-dire, on a bien entendu identifié la ville de Borgo qui revient sans cesse, y compris dans des situations absolument extraordinaires, dans les batailles de Constantin, enfin, dans toutes sortes de situations tout à fait anachroniques, l'enfance revient, enfin, la vie, le natif, le natal revient, et notamment donc à travers le reflet. Qu'est-ce que c'est que ce reflet qui serpente à l'arrière du baptême du Christ? C'est une augmentation du ciel, car c'est une façon, au fond, de réduire la terre, réduire le nom, réduire les corps faciles à cerner, facile à dessiner, qui sont les corps terrestres, et augmenter le reflet, augmenter la lumière.
Ces bras de possédés, ces dos sombres, ce chaos de verts soldats et de chevaux violets, et cette pure lumière qui voile tout de tonalités de fine poussière, c'est une bourrasque, c'est un massacre.
Donc, je crois, c'est quelque chose qui va évidemment après être repris d'une façon encore plus manifeste, cette affaire de la lumière, qui bien entendu est manifestée par l'entrée de l'ange, l'Annonciation, c'est l'aube, n'est-ce pas? Ça a été tout à fait formalisé ainsi par les théologiens, n'est-ce pas? Donc c'est toujours l'entrée de la lumière, n'est-ce pas? Quelquefois, elle est donc les anges qui sont très nombreux, qui sont tellement beaux chez Pierrot, c'est toujours l'aube. Et ils sont soit signifiés en tant qu'anges, c'est des corps photophores, ils portent la lumière. Donc on a quelque chose de tout à fait éblouissant dans ce qu'est cette aventure de Pierrot qui va consister au fond à nous aider ou à nous éduquer à vivre ou à inscrire notre vie davantage que dans le verbe, dans la lumière. Alors, ça n'est pas sans rapport, donc ces corps mouvants, le ciel, l'insaisissable, l'informe. Le ciel, c'est ce qui revient, c'est ce qui est sans cesse mouvant, c'est l'élément chaotique, en fait, c'est l'élément imprévisible, c'est l'intempestif, c'est quelque chose qui, je crois, n'est pas sans rapport avec l'incroyable insistance du sommeil. Le songe de Constantin, il faudrait y revenir un instant, on a souvent associé la fameuse phrase de Cézanne de 1904 à Émile Bernard, où Cézanne tente de clarifier sa pensée et recommande à ce jeune peintre qui vient le consulter de traiter la nature suivant le cylindre, la sphère et le cône. Ça qualifie bien entendu tout à fait la passion centrale pour la géométrie, pour l'architecture, qui vient dédoubler d'une certaine façon, qui vient comme un fétiche second dans l'œuvre de Pierrot, et qui qualifie parfaitement notamment le songe de Constantin. Car c'est ça, je trouve, le paradoxe à relever, c'est que pour capter la matière insaisissable du sommeil, car l'empereur est plongé dans le sommeil, il est le corps donc justement horizontal, il est pris dans un déchaînement de ces figures géométriques énoncées par Cézanne, n'est-ce pas ? On a des cylindres, on a des cônes figurés, qui figurent la tente, puis on a le campement qui vient redoubler le nombre des cônes, enfin de la structure, n'est-ce pas ? Qui est elle-même redoublée par la colonne centrale. Donc on a énormément d'éléments durs, d'éléments solides, comme si pour saisir les risques et les menaces inhérentes au corps qui s'abandonne au sommeil, il fallait donc protéger. Et voici que dans ce qu'on a cru être une nuit, qui est en fait encore une fois l'aube. On est à la frontière, c'est pas tout à fait l'aube. Le ciel s'éclaire, on voit quelques étoiles, on n'est pas tout à fait dans le jour, on n'est plus tout à fait dans la nuit.
On n'est pas dans le bleu profond de la nuit, en tout cas.
Non. Et on a à gauche cet ange tronqué, magnifique, qui est encore une fois une pure entrée, un pur déploiement de lumière, qui vient éblouir la tente et qui fait un geste. Et je crois que c'est tout à fait merveilleux de voir que le lendemain, et c'est peut-être la fonction de nos rêves, n'est-ce pas ? Comme si Pierrot notait cette injonction du rêve, puisque le lendemain, on est très ému de voir que l'empereur va imiter très exactement le geste de l'ange qui tient une croix. Et ce geste qui va évidemment assurer sa victoire. Donc je trouve que là, il y a une hypothèse sur le rêve, il y a une interprétation du rêve qui me semble tout à fait extraordinaire.
Il y a un traitement de la lumière aussi ici qui est particulier et qui est une lumière à la fois douce et violente.
Je crois qu'elle montre aussi cette étrange alliance de la peinture, enfin de son objet ou de son non-objet justement, de la forme, de l'imposition d'une forme, pour capter précisément ce qui semble ne pas pouvoir être capté par la forme, à savoir la clarté, l'immatériel, l'invisible.
Représenter l'invisible chez Pierrot, c'est un petit peu, je crois, ce qu'on a toujours essayé de chercher, non ? Quand on parle, je crois que beaucoup de critiques se sont accordées pour parler du mystère de Pierrot, de l'énigme que représente la peinture de Pierrot. Chercher l'invisible chez Pierrot, c'est chercher quoi ? Au-delà, je veux dire, de la révélation divine qu'il veut tout le temps nous communiquer.
Ben, moi, il me semble qu'il a trouvé une solution relativement particulière qui consiste à traduire la transcendance par l'immanence. Alors vous allez me dire, là aussi c'est quelque chose de l'ordre du lieu commun, mais l'immanence comment? Ben, l'immanence par juxtaposition des motifs de manière isolée, entre lesquels eh bien, le spectateur doit opérer une mise en relation. C'est-à-dire que lorsque nous avons parlé ensemble d'Historia, je vous ai dit qu'elle existait, mais il y a tout de même toutes sortes de moyens à utiliser, dont cette absence de lien de regard entre les figures, cette absence de gestuelle ostentatoire, etc., toutes sortes de moyens qui rendent difficile la mise au clair des relations instituées entre les différentes figures, toutes sortes de figures de témoins ou de figures simplement d'être présent, pour reprendre cette modalité qui me paraît si importante, d'être simplement présent. Et donc, dans cette espèce de tension qui existe dans l'art occidental depuis le début, entre mimésis et diégésis, hein, donc la simple ressemblance des choses et puis le fait de raconter une histoire. Bien évidemment, la diégésis est inscrite dans la mimésis. On raconte une histoire au sein d'une logique générale de la ressemblance, de l'évocation des choses telles qu'elles sont. Mais ce que utilise Pierrot, me semble-t-il, c'est ce pôle de la mimésis, je dirais, à nu, de façon pure, et en mettant en cause l'autre pôle, celui de notre goût pour la fabulation, pour le fait de lier les choses entre elles, raconter une histoire, c'est ça, c'est lier les destins. Et bien lui se situe comme toujours à une sorte d'en-deçà, et qui est effectivement quelque chose de très fort, qui fait qu'on peut se rapprocher après d'une logique du rêve, pour ceux qui ont la tête à la psychanalyse ou autre, hein, et qui en tout cas constitue une poétique singulière.
Faire un abstrait. De même qu'on ne peut pas faire de Cézanne un peintre abstrait, c'est impossible, ni même de Matisse. Il y a aussi une ontologie, enfin il y a une réflexion sur l'être. C'est en quelque sorte, toute l'œuvre de Pierrot est une allégorie de l'être. Il y a une... Je ne sais pas, il me semble qu'il y a quelque chose qui tente à saisir une allégorie valable peut-être pour tous les temps, pour tous les hommes. Comme si Pierrot avait médité sur ce que c'est que l'origine. On a cette étrange Madonna del Parto, n'est-ce pas, qui est si belle, si élégante, si... légère, distraite, elle est sans doute absorbée par ce qui arrive, hein, dans cette sphère qu'elle porte en elle et qui va faire le corps de Dieu. On a quelque chose qui tente à nous alerter sur des états d'avant le langage. Des états que les œuvres et les poètes ont pour mission de saisir, je crois. Des états qui échappent, n'est-ce pas, dont nous faisons continuellement l'expérience, n'est-ce pas, que l'on soit artiste ou pas, on est bien conscient de quantité de choses nous surviennent, qui nous échappent, qu'on ne comprend pas. Il me semble que ça nous ramène à ça. C'est donc... nous sommes des êtres soustraits souvent à la conscience. Nous sommes des êtres soumis au passé, soumis à la folie généalogique, soumis à la faille, soumis à la perte, soumis au sommeil. Et il me semble que il y a véritablement cette figuration. Il me semble qu'il déchiffre ce que c'est que dormir, ce que c'est que rêver, qu'est-ce que c'est, à quoi ça doit servir le rêve. Car on pourrait penser qu'il n'y a pas d'ombre, hein, n'est-ce pas? Toute l'ombre, toute la nuit chez lui, s'est réfugiée à l'intérieur du corps, derrière les vêtements, n'est-ce pas? Derrière les vêtements, il y a l'ombre.
Jean-Paul Marcheschi, l'œuvre de Piero della Francesca nous parle du sacré, évidemment. Mais vous, qui êtes un artiste qui, me semble-t-il, travaillait sur une certaine forme de sacré, est-ce que vous pensez que c'est une œuvre aussi qui va toucher, nous toucher, en fait, au-delà de l'expression du sacré, ou bien qui va nous toucher sur le plan d'un autre sacré, justement?
Je crois, en fait, ce qui est sacrifié dans cette œuvre, c'est le sacré, d'ailleurs, d'une certaine façon. Il me semble que c'est une œuvre extraordinairement de l'ici et maintenant, précisément. C'est peut-être ça qui la met en avant de nous. Je crois qu'elle elle nous montre des emplacements. Il y a donc tous les gramments de l'existence, et puis on va avoir cet autre confin qui est ce qui va clore l'existence. Alors, c'est aussi une méditation sur la mort. Mais, étant donné que c'est un peintre, il va méditer sur son propre rapport à la mort. Or, un peintre, son rapport à la mort, c'est aussi essayer d'imaginer ce que deviendra sa forme, enfin, ses pigments, ses agencements de peinture, de couleur, après lui. Donc c'est une œuvre qui, je crois, est extraordinairement analytique, enfin, et qui a une portée philosophique très très grande. C'est en ce sens qu'elle est... Elle peut faire penser, enfin, à une... Ce serait trop dire à un athéisme, mais il y a tout de même là quelque chose qui se sépare d'une adhésion fanatique au sens religieux. Voilà comme je la vois, ce qui explique sans doute qu'elle nous accompagne continuellement encore, qu'elle a été d'ailleurs tout à fait au centre, enfin, des références de Matisse et de Cézanne notamment.
Tu as la tête à un œil qui fut faite dans la partie précédente de la proposition avec 8 lignes transversales qui sont A, B, C, D, E, F, G et H. Chacune avec ses marques. Et sur elle, tire une ligne qui touche la pointe du nez et le menton, dite la ligne IP, de sorte qu'elle fait pencher la tête en arrière, d'autant qu'il te plaît qu'elle penche. Et sur la ligne IP, mène une ligne perpendiculaire touchant le sommet de la tête, soit la ligne zeta sans terme. Puis tire des points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de la ligne A de la tête à un œil, des lignes toutes parallèles à la ligne zeta sans terme. Légèrement, à la mine de plomb.
Identifié, semble-t-il, il me semble qu'il y a peu de doute, le portrait de Piero lui-même dans le soldat, le deuxième soldat sur la gauche, qui est lui-même traité, encore une fois, dans son traité de mathématiques. Et je trouve que cette espèce de relation entre le nombre et la nuit est capital. Comme si Pierrot nous indiquait qu'on ne peut saisir ceux qui fuient qu'en l'enserrant, qu'en l'incarcérant, finalement, dans le nombre et dans les mathématiques. Les mathématiques n'ont pas cet arbitraire qui, quelquefois, nous saisit lorsque nous regardons Paolo Uccello, par exemple, où il y a là une abstraction. Uccello ne va pas capter du tout cette individuation des visages. Il y a quelque chose de très stéréotypé. C'est visiblement pas ce qui l'occupe. Dans le cas de Pierrot, ça n'est pas une passion virtuose. Ça n'est pas juste pour montrer qu'il sait. Il me semble que cet appareillage du nombre est là pour précisément cadrer ce qui lui échappe. Donc on a véritablement là un coup de dé, enfin un véritable pari sur l'être, qui me semble le placer peut-être dans ce que l'espèce humaine n'a jamais produit ou inventé de plus extraordinaire. Mais je crois que Pierrot est tout à fait encore en devant de nous, n'est-ce pas ? Il est dans l'attente encore d'être nommé, j'espère, pour toujours. Il recule sans cesse, n'est-ce pas ? Ce qui est la raison d'une œuvre d'art, bien entendu.
Piero della Francesca avec Alain Buisine, Jean-Paul Marcheschi, Salvatore Rotolo, Étienne Jollet, Maurice Brock. Les textes de Roberto Longhi, Bernard-Henri Lévy, Giorgio Vasari, Piero della Francesca, Bernard Simeone, Pierre Paolo Pasolini sont lus par Agnès Pontier et Georges Kless. Une vie, une œuvre, Piero della Francesca. Prise de son, Claude Niort, Didier Sudre. Mixage, Guy Senot. Une émission de Simone Douek, réalisée par Dominique Costa.